On a du mal à avoir des représentants de l'hôpital, on a du mal à avoir des représentants des cheminots, et puis les pompiers, bah, quand ils sont en grève, ils sont réquisitionnés, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Mais on les invite, et quand on mène des actions, ils sont avec nous, ils sont dans la rue. Bon. Donc finalement, c'est plus Éducation nationale ce soir encore qu'Interpro. La dernière AG, après les vacances, on est à la deuxième AG Interpro de 2020 quand même. Sur Lens, c'est pas mal. La précédente, c'était essentiellement avec les lycéens. Essentiellement avec les lycéens, bon, dont des lycéens de Condorcet, pour préparer les actions sur les E3C. Donc là, l'idée ce soir, c'est de faire un petit bilan de ce qui s'est mené dans vos lycées respectifs. Certains ont commencé la semaine dernière, c'était le cas à Condorcet-Lens, d'autres ont commencé ce matin. Et puis dans une deuxième phase de l'Assemblée de ce soir, c'est de se projeter sur les mobilisations de cette semaine, puisque vous avez remarqué qu'on est lundi soir, et que l'intérêt d'une AG du lundi soir, c'est de pouvoir planifier un peu les actions dans la semaine qui est devant nous.
Je pense qu'au moment le plus fort, il y avait 25 collègues qui étaient là, les élèves... sont entrés, mais beaucoup se sont rassemblés devant le lycée. Et puis j'ai quand même apprécié qu'il y ait quand même des parents, il y avait des parents d'élèves. On avait fait parvenir un courrier à tous les parents de première, et puis je les avais invités au rassemblement, et donc il y en avait quelques-uns qui étaient là. À l'issue d'ailleurs du rassemblement, on a échangé nos numéros de téléphone, et on va se revoir avec les parents. En particulier parce que certains élèves ont décidé de ne pas faire l'épreuve des E3C et qui ne sont pas très nombreux, et donc c'est quand même une prise de risque, et donc les parents étaient inquiets. Nous aussi, on a bien dit aux élèves, s'il y a un problème, vous nous contactez, et puis les parents ont dit, nous on sera là aussi. Donc il y a une vraie solidarité à ce niveau-là, donc c'était plutôt bien. Donc on s'est adressé aux élèves, on leur a donné les autocollants, on n'est pas des cobayes, les tracts aussi. Et puis voilà, donc le proviseur a menacé les élèves, vous aurez des sanctions, ça se passera pas comme ça. Et puis donc certains ont dit, ben, puisque ça se passera pas comme ça, nous on n'ira pas. Mais bon, encore une fois, ils sont largement minoritaires, donc voilà. Donc on est resté là un moment, et après dans la journée, les épreuves se sont déroulées normalement, malgré 8 grévistes, je crois, qui ont été remplacés par des AED principalement. Demain, on n'a rien prévu. Hein, et donc, suite à ça, on est parti rejoindre les camarades de Picasso. Et on était quand même une dizaine de collègues, de camarades, pardon, à rejoindre le lycée Picasso qui nous attendait pour son action brillante à l'extérieur de son lycée.
Nous, on avait quand même tracté tous les lycéens, et ils avaient signé les pétitions. Sur les E3C, on avait récolté au moins 150 signatures, je pense, à peu près. Du coup, ce matin, ils avaient décidé le boycott des E3C. Il y avait eu, pendant la semaine dernière, un peu des affichages sauvages partout dans le bahut. Donc, ils s'étaient organisés. Ils avaient même convoqué eux-mêmes la presse. Donc, c'était quand même déjà pas mal. Ce matin, quand je suis arrivé à 8h30, ils étaient, je dirais, une bonne centaine réunis devant le bahut, et en ayant décidé de ne pas rentrer. Ils avaient fait des banderoles, etc. Ensuite, ils ont fait une espèce de chaîne humaine devant le lycée. Et c'est là où le chef est venu, leur a arraché la banderole des mains, a commencé à les menacer de mettre zéro à tout le monde, etc. Et donc, du coup, forcément, il y en a qui ont craqué sous la pression, hein, qui sont rentrés. Bon, puis après, ça s'est effrité petit à petit, et au final, tout le monde est rentré. Mais bon, au moins, il s'était fait entendre, il s'était fait voir par tout le monde, et... Donc pour eux, je pense que c'est quand même déjà une belle réussite, même si voilà, au final l'épreuve a eu lieu juste avec un tout petit peu de retard, mais globalement elle a eu lieu, quoi. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils remettent ça demain, donc pareil, ils étaient contents avec leurs autocollants, nous ne sommes pas des cobayes, etc. Mais donc apparemment ils remettent ça demain, à voir si demain ils vont réussir à tenir sous la pression et sous les menaces, mais...
Eh ben, Picasso Avion, donc ce matin, avec le renfort de nos camarades de Henri Darras, on était une petite vingtaine de collègues, soutenus par la présence des maires de Méricourt et d'Avion, la sénatrice à Pourceau du Pas-de-Calais, des parents d'élèves du lycée, où on avait décidé de tracter devant l'établissement, de se faire entendre contre les E3C, pour essayer de, de conscientiser le plus de monde possible justement sur le caractère inégalitaire de la réforme et de ce type d'épreuves et d'examens locaux. C'était plutôt une réussite festive en nombre, etc. Par contre, en AG, les collègues avaient estimé qu'il ne fallait pas qu'il y ait volonté de bloquer ni de faire grève. Donc il n'y avait pas à Picasso de volonté de freiner le fonctionnement des E3C. Donc à 10h, tout le monde est rentré et a priori, puisqu'on n'a pas d'autres informations, la session des E3C s'est déroulée normalement ce matin.
En tout cas, c'est ça, on n'est pas des cobayes. Et il y a pas mal d'élèves qui les ont collés sur leur table et qui ont fait toute l'épreuve comme ça. J'ai une photo.
Mercredi, il y a Arras le matin, normalement l'après-midi Lille, et eux font une proposition d'aller sur Méricourt parce qu'il y aura une conférence débat. Alors ils n'en disent pas plus qui anime quoi, j'en sais rien, à 14h, suivi d'un concert qui serait au chapeau en solidarité des grévistes avec un groupe qui s'appelle Ni Dieu ni Métronome qui se présenterait donc dans la suite de la conférence débat. Ça, c'est à Méricourt mercredi après-midi. Alors est-ce qu'il faut... La question, c'est voilà, est-ce qu'on sera encore très nombreux à Lille et tout ça? Bah ouais. Donc j'ai trouvé, voilà, c'est arrivé vendredi, et là je viens de recevoir tout à l'heure par la CSD, il y a un blocage de la déchetterie de l'agglo Béthune-Bruay, vendredi à 3h du matin, et 31, j'éteins. À 3h du mat, et il propose évidemment d'aller soutenir, et du coup par rapport aux territoriaux, il nous envoie un article 16 pour pouvoir se pointer à 3h du matin ou même dans la journée pour soutenir les bloqueurs devant la porte.
Moi c'est Régis Schoenaer, je suis ouvrier à la Française de Mécanique à Douvrin, c'est PSA. Et nous, ben, principalement, c'est pas les E3C, c'est les retraites, hein, puisque tout le monde en parle. Depuis le début, 5 décembre, on arrive à mobiliser un peu les gars. Alors pour les débrayages, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a qu'un seul syndicat, la CGT, qui appelle à faire grève. Donc forcément, pour les gars, c'est se marquer au rouge, comme quoi on est contre le patron, etc. Donc ça ne marche pas terrible. Au début, on a eu une centaine de personnes. Maintenant, c'est peut-être 50 personnes, 60 dans la journée. Par contre, on arrive, et ce qu'on n'arrivait même plus à faire lors de la loi travail, c'est faire un bus. Et ce bus, on arrive à le remplir entre 25, 30, voire 40 personnes. On a fait même une manif à 50 personnes à Lille. Donc voilà. Donc on arrive toujours à se mobiliser un peu. Bon, c'est la retraite, c'est compliqué aussi pour les ouvriers. Et je le disais tout à l'heure, là, c'est que l'espérance de vie qu'on nous vend comme quoi on peut travailler plus longtemps, c'est une vraie fumisterie, mais une vraie. Parce que j'ai pris les chiffres de 2019, puisque les anciens de l'AFM le mettent sur un site, les décès. 44 décès en 2019, il y a 3 sur 10 qui sont décédés avant 65 ans et 6 sur 10 qui sont décédés avant 70 ans. Ça veut dire qu'on a plus de chances en étant ouvrier, et même encore qu'il y a toutes les catégories dans ces décès, de mourir avant 70 ans que de mourir après. Bon. Alors, sans compter hein, ces histoires de points où ils ont triché, là, vous l'avez vu, là. Ils ont truandé dans leur façon de calculer où tout le monde serait gagnant. C'est bon. Alors, on arrive à mobiliser. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. On a fait des diffs avec des camarades de cheminots à la FM, etc. Bon, on se mobilise là-dessus. Alors, bon, là, vous parlez beaucoup des E3C. Je comprends très bien et c'est une saloperie, hein. Et puis d'ailleurs, moi je suis parent d'élève d'un... Mon garçon est à Henri d'Arras, mais on n'arrête pas de leur mettre la pression. Parce que les... Non mais non, parce que bah, comme tous les gamins, on s'amuse plus qu'on ne bosse, et puis etc. Puis tous les quatre doigts, il va y avoir un contrôle à faire. Donc on n'arrête pas de leur mettre la pression. Et effectivement, et en plus j'ai participé à la réunion du proviseur, où forcément là, on vient d'avoir les documents tardivement, tatati, tatata. On voit que c'est bâclé, mais c'est archi bâclé. Et puis vous mettez en place un truc qui est quand même affolant, quoi. Sans parler en plus le temps passé et rémunéré, je crois que c'est, hein, si j'ai bien compris, c'est en dessous de tout, quoi. Bon, alors voilà, c'est sur les retraites quand même qu'on arrive à se mobiliser. Mercredi, c'est encore le cas. Mais c'est compliqué. Malgré ça, moi, je trouve qu'à Lille, c'était vendredi dernier, on était encore quand même pas mal nombreux, je trouve, même si ce n'était pas les mêmes boulevards, donc un peu moins large, c'était tendu. Mais on arrive toujours à essayer de mobiliser les gens. Bon, voilà. Mais dans la boîte, comme beaucoup dans le privé, c'est compliqué, hein, c'est clair. Même si tout le monde a compris qu'on va, on va être perdant. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez vu la lettre du recteur de Rennes sur la chasse aux migrants là, qu'ils veulent organiser avec le fait que en gros un élève sans papier qui n'aurait pas le droit donc de faire ses stages, enfin ses périodes de formation en milieu professionnel comme ils appellent ça maintenant, et même aller en atelier, et qui du coup appelle tous les chefs d'établissement en gros à vérifier les papiers dès l'entrée dans les, enfin dès l'inscription en établissement. Mais enfin on parle à chaque fois de fascisation du pays, je veux dire là je c'est quoi l'étape suivante, hein? On va leur mettre des étoiles et ça fait quand même super peur. C'est pour ça que c'est éducation nationale, mais ça l'est juste parce que ce monsieur il est recteur, mais il pourrait faire ça dans n'importe quelle administration ou dans n'importe quelle boîte d'ailleurs quasiment, parce que voilà, on vérifie si les gens sont bien sous tout rapport, etc., pour rentrer maintenant à l'école, quoi. Et donc ça devient quand même super, super grave, ce qui arrive là, je pensais à ça, parce que tu parlais du recteur, et puis qu'en plus, on a quand même des camarades ici qui sont à RESF. Alors heureusement, RESF est monté au créneau tout de suite, avec d'autres associations, et du coup, il a fait un espèce de truc en disant que cette lettre avait pas vocation à partir, qu'il a fait une erreur, etc. Mais n'empêche qu'il l'a quand même écrite, cette lettre. Enfin, c'est quand même... Le gars, il se cache derrière son petit doigt en disant qu'en gros, il voulait pas envoyer ça. Oui, mais si tu voulais pas l'envoyer, t'avais qu'à déjà pas l'écrire, quoi.
Oui, donc moi, je participe plutôt par procuration, étant retraité. Bon, j'ai des contacts politiques. Bon, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Mais bon, ce que j'ai comme information un petit peu partout, c'est d'abord la montée en puissance quand même vertigineuse dans les facs et dans les labos. Là, j'ai plein d'échos extrêmement intéressants. Et même d'échos, disons en rupture quoi, avec l'ordre dominant. Puisque, bah, par exemple, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Toulouse. Là, il y a des... Les facs dans le coin, non, pas tellement. Bon, moi, si vous voulez, je suis secrétaire national d'une organisation politique, donc sans demander quoi que ce soit, m'arrivent des informations d'un peu partout. Là, bon, la dernière qui me reste en tête, c'est celle de Toulouse, celle de camarades aussi de Marseille, qui décident de s'adresser à leur recteur en disant « Nous ne vous considérons plus comme un interlocuteur. Nous ne nous adresserons plus à vous après la circulaire que vous avez mise en place pour dire que... désormais, tous ceux qui auront participé à des actions blocage de 3C ou autres ne seront plus nos interlocuteurs. Eh bien, nous non plus, on ne vous considère plus comme un interlocuteur, jusqu'à demander, bien sûr c'est symbolique au ministre, que le recteur soit déplacé ou soit même carrément révoqué, en quelque sorte. Bon, vous pourriez toujours penser que c'est pour se faire plaisir, mais moi je trouve que c'est intéressant quand même que des gens en arrivent comme ça à dire, bon voilà, nous ne sommes plus... dans une démocratie, passez-moi l'expression, moi je suis marxiste, une démocratie bourgeoise, on est déjà dans une démocratie bourgeoise sérieusement en voie de fascisation. Et donc qui n'est déjà plus un interlocuteur, normal, hein, pour des discussions. Il y a ça qui me paraît intéressant. Alors bien sûr, on peut regretter que les secteurs entrent en lutte les uns après les autres et que bon, la lutte se soit déjà arrêtée pour une bonne part du côté des travailleurs du rail, alors que prennent le relais des gens des ports, des gens des raffineries, des gens du supérieur. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas, il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie pour que tout le monde parte en lutte en même temps. Alors, il y a ça, bien évidemment. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, une phase importante de la lutte, ça va être la solidarité avec tous ceux qui vont être victimes de répression. Car, bon, Macron, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit que bon, les grèves vont arriver à l'épuisement. Et que donc, une fois que les gens seront rentrés, comme ils auront tiré toutes leurs cartouches, on va pouvoir y aller franchement. Et y aller franchement, ça veut dire justement bousculer, percuter les gens qui ont été le plus en pointe dans les mouvements. Donc là, il faut quand même se préparer à de la solidarité concrète pour ne pas laisser les camarades en question complètement démunis par rapport à tout ça. C'est d'ailleurs ce que vous disiez déjà. Je crois aussi quand même, et c'est une idée qui me tient à cœur, qu'on va avoir maintenant une période difficile, mais en même temps, qu'il ne faut pas baisser les bras ni se décourager, parce qu'en même temps, ce régime est quand même largement discrédité. Et de plus en plus de gens disent ce régime, d'ailleurs, comme je viens de le faire, sans le faire exprès, quelque part, et non plus seulement ce gouvernement. Et donc, à partir de là, que c'est intéressant de voir que, bien sûr, bon, si vous voulez, ils ont les médias.
ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les tribunaux. Quelque part, c'est assez normal qu'ils gagnent. Hein. Bon, comme vous disiez tout à l'heure dans les bahuts, vient un moment où vous vous demandez si quand même vous n'allez pas vous retrouver complètement le dernier mort de la guerre. Et donc, tout le monde cherche à ne pas être le dernier mort de la guerre, quelque part. Donc, ils peuvent gagner, bien évidemment, mais en même temps, ça se paye par un discrédit politique, en quelque sorte. Après, bon, bien sûr, il y a le fait qu'ils se disent il n'y a pas de débouché politique sérieux dans le pays à l'heure actuelle. Donc, bon, on ne craint rien puisqu'on va retourner vers un second tour, c'est ce qu'ils se disent, entre le Macron et Le Pen, hein, bloc contre bloc. Donc, que la classe dominante ne sera pas en danger à partir de là. Cela dit, bon, ça c'est un autre débat et je crois que c'est une chose dans laquelle il faut discuter. Mais je dirais aussi, moi je vous le dis parce que vous êtes tous des militants de terrain, engagés dans les luttes jusqu'au cou, bon, admirable quand même, hein, il faut quand même le reconnaître, tenir sur la distance comme ça et en plus pendant les fêtes aussi, à des moments où c'est compliqué, tenir l'angoisse, quoi, tenir les nuits sans sommeil, tenir les réunions comme celle-ci où on se redonne un peu de courage mais où on espère être plus nombreux quand même. C'est quand même très chouette. Et je crois quand même qu'il faut que ces militants de base ne se disent pas simplement « Bon, nous, on s'occupe des actions de terrain. La perspective politique, c'est complètement autre chose. » Alors, on peut être en désaccord ici sur la perspective politique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans ce milieu-là que doit se discuter aussi cette question de la perspective politique. Sinon, elle appartient aux appareils. Et pour finir, elle est toujours, au final, confisquée, quelque part. Le lieu où elle se décide n'est pas indifférent au contenu de ce qui se décide. Hein, il est plus fort si évidemment on part du terrain, on part des luttes, on part de gens qui ont réellement affronté l'ennemi, le capital, quoi, enfin d'une façon directe, et le gouvernement Macron qui est une émanation particulièrement brutale de ce capital. Donc il faut bien y réfléchir, sinon bah, les luttes après elles tournent un petit peu en rond parce que le pouvoir se dit, quelle que soit la durée et la dureté de la lutte, de toute façon, il n'y a pas d'alternative réelle, donc j'ai qu'à attendre que ça pourrisse. Et à la fin, je gagne. Bon, il faut réfléchir aussi aux questions, disons, politiques, d'une façon ou d'une autre.
Oui, alors, pour l'université, bon, c'est vrai que ça bouge beaucoup, d'une certaine façon, dans les universités. À Lille, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'ils font des AG, la dernière fois. Enfin, j'ai presque envie de dire moi-même, j'y croyais pas trop. Mais si ils sont à plus de 200, par exemple, dans les AG, c'est déjà un début, hein, on le voit. Bon, bien sûr, l'université de Lille, c'est énorme. Bon, je vais pas donner les chiffres. Ben, c'est des AG en général communes. Hein. En fait, il y a assez peu d'étudiants pour l'instant dans les AG. D'après ce que je vois, enfin de ce que j'entends. Finalement, il y a beaucoup de difficultés à mobiliser les étudiants. Alors bon, ça s'explique, d'ailleurs c'est assez facile à expliquer. D'abord parce que bon, les retraites, on sait bien qu'en général, ce n'est pas les plus jeunes qui se mobilisent. Hein. Et ensuite, bon, j'en reparlerai aussi, mais il y a d'autres questions sur dans l'université et... ça concerne plutôt les statuts, un peu comme dans le secondaire, la façon dont on voit le métier, quoi, hein, et qui est bon, où il y a des attaques assez sérieuses. Donc, donc à Lille, ça fait déjà bon à peu près depuis la semaine dernière, disons que ça a été préparé il y a deux semaines et la semaine dernière, ça a commencé un petit peu à se bouger. Et on le voit aussi dans les manifs à Lille. Hein. Il y a quand même un peu plus d'étudiants, un peu plus d'enseignants d'université. Et bonne nouvelle, si je puis dire, à l'université donc d'Artois, là, où je suis, donc, bon, il y a plusieurs pôles. Mais donc, c'est prévu une AG lundi prochain. Alors, ça sera après. Bon, entre-temps, il y a toujours, évidemment, des gens qui font grève, enfin, qui font grève ou pas, mais bon, qui se mobilisent, qui viennent dans les manifs et tout. Mais bon, ça reste assez, je dirais, marginal. Mais là, on espère qu'il va y avoir un peu plus de monde, en particulier à Arras, parce que, bon, à Arras, c'est quand même le siège de l'université. Et il y a tout un secteur, donc arts et lettres, bon, qui est quand même un secteur assez gros, qui impulse tout ça. Et je pense que ça va être rejoint par d'autres secteurs. Et donc, il va y avoir une AG. J'en ai demandé l'autorisation au président dans un amphi. Et donc, bon, voilà pour ce qui est du local, si je puis dire. Mais globalement, c'est vrai que, bon, comme dit Georges, on entend quand même, enfin moi j'ai les informations où il y a quand même pas mal, ça bouge pas mal, y compris dans mon secteur, ceux qui, puisque quand on est enseignant chercheur comme nous, ben on est en contact avec plusieurs établissements, hein, même à l'étranger, mais bon là c'est plusieurs établissements en général en France, et certains disent oh mais à tel endroit, par exemple à Paris 7, ça bouge pas mal, etc., etc. Donc et alors comme je disais, puisque bon on va peut-être un peu en parler, alors nous on n'a pas des E3C, mais on a un petit peu la même chose, et je veux faire un peu le lien, c'est-à-dire que le gouvernement s'est quand même cru malin, mais je pense qu'il va avoir une espèce de retour de bâton de faire passer deux mauvaises choses en même temps. La réforme des retraites et, d'une certaine façon, une espèce de revalorisation bidon pour les enseignants et pour nous aussi, les chercheurs, qui s'appelle donc loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Donc, ça a un acronyme comme d'habitude, LPPR. Et or, ce truc-là, normalement, on demande des lois de programmation. En général, c'est une demande syndicale. Hein. Bon, c'est comme les autres trois. Nous aussi, c'est une demande syndicale. Sauf que là, évidemment, ils remettent dans le circuit tout ce qu'on avait refusé auparavant, qui est des attaques du statut, attaques sur le nombre d'heures qu'on doit faire, attaques sur donc ce qu'on appelle la modulation des services, etc. Et évidemment aussi attaque sur les financements pérennes et uniquement des financements sur projet, enfin, etc., des évaluations énormes. Enfin, voilà, donc c'est de l'argent, mais finalement, dont on sait très bien qu'on ne verra pas la couleur. Enfin, au moins pour 90%, quoi. Hein, nous, on n'est pas à 99,9 comme Blanquer, mais à 90%, on peut dire qu'on ne verra pas la couleur de cet argent. Donc... et là, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui s'en rendent compte. Et c'est pour ça aussi que ça bouge dans les universités.
C'est uniquement en puisant l'argent dans les caisses de l'État. Le crédit d'impôt compétitivité, vous connaissez très bien. Là, j'ai un super exemple et c'est révoltant. Vous avez peut-être entendu que Peugeot va peut-être construire une usine de batterie là, sur la friche de tout ce qu'il a vendu. Alors, la région, Xavier Bertrand, je vais mettre 80 millions. La cale, Bruet, etc., j'en mets 20, etc. Ça fait déjà 120 ou 140 millions d'euros. Peugeot, il dit, je vais réfléchir quand même, c'est pas encore décidé, mais en fait, il dit pas oui tout de suite, même si ça l'intéresse. C'est parce que la communauté, l'Europe a décidé de tolérer que les États, et ils sont 7 pays, financent à hauteur de 3 milliards 200 millions des entreprises privées, dont la France, l'Allemagne, etc. La France, elle est déjà prête à mettre 690 millions d'euros. Donc Peugeot, il dit, avant de lancer le truc, il veut qu'il soit sûr que le pognon va arriver. Ça va faire déjà une somme, là, minimale, de 800 millions d'euros. Alors je me dis, bon, mon service public, moi j'y tiens, ça correspond à quoi? Ça correspond à tous les déficits des hôpitaux publics en France. Il n'y a pas d'argent. Vous avez 10 ans pour sortir un hôpital à Lens, là. Ils vont mettre 10 ans pour le sortir. Là, l'Europe, ils décident, OK, vous pouvez y aller jusqu'à hauteur de 3 milliards 2. 6 jours après, là, la région, elle dit, OK, nous, on crache déjà au bassinet. C'est quand même révoltant. Et c'est ça qu'on paye aussi dans les hôpitaux, mais aussi dans l'enseignement. C'est que ce pognon-là, ils veulent vous le prendre. Alors, bien sûr, les attaques sur les retraites, c'est pareil. Moins on dépense pour les retraites, plus c'est d'argent dans les caisses. Mais c'est pareil. Alors bien sûr, quand ils disent qu'ils vont vous financer pour remonter le niveau de vos retraites à hauteur là, de 10 milliards en je ne sais plus combien de temps, c'est une fumisterie.
Jeudi, c'est la grande conférence d'enfumage là, qui démarre. On va leur demander si pour eux aussi 2 plus 2 ça fait 4. On verra s'ils mettent 3 mois pour trouver la réponse, mais on s'attend quand même à ce qu'ils trouvent la même réponse que celle d'Edouard Philippe. Ça c'est pour jeudi. Vendredi, le texte arrive au Parlement. Bon, et ce texte, on a quand même là juridiquement, des billes. Je pense quand même qu'il y a, on va peut-être pouvoir entamer une phase plus politique, parce que le texte, alors pour l'augmentation de salaire des profs, on a compris que c'était même pas constitutionnel, donc circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce régime universel, on apprend quand même qu'il y a 5 régimes dans ce régime universel. On nous annonce 29 ordonnances, donc ça va être un texte, un chèque en blanc, un texte à trous. Enfin, sur le plan de la constitutionnalité du texte, même si les gens étaient favorables à son contenu, il y a quand même de quoi se mettre en colère. Alors nous, cette semaine, on va évidemment mettre tout le paquet sur la journée de mercredi, en étant le plus nombreux possible le matin à Arras. Et l'après-midi, nous, au SNES, on va, tant pis pour Méricourt, mais on va privilégier, nous, la manifestation lilloise en faisant du covoiturage à partir de la place du Cantin, enfin, en fait, Roger Salengros à Lens. On le dit, hein, c'est ceux qui n'ont pas de mode de transport, à 13h30, on va faire un covoiturage. Ça, c'est pour la journée de mercredi. La journée de jeudi, ça ne serait pas idiot. Jeudi et vendredi, mais de manière délocalisée. Alors là, ce soir, il faut qu'on prenne la décision, qu'on essaye quand même de faire quelque chose à Lens. Je pense que l'idée de renouveler quelque chose qui ressemblerait à une retraite au flambeau, où il y aurait des prises de parole, où il y aurait aussi peut-être des chants militants. Enfin, moi, je pense qu'il faut élargir un petit peu notre registre. Je pense que si on fait quelque chose jeudi, je vais vous proposer de chanter le chant des partisans, mais dans le texte, parce qu'on est rentré dans une résistance, quoi. Donc, il faut maintenant qu'on occupe le terrain, qu'on se mette à utiliser des chants de lutte. Si on savait parler italien, il y a aussi tout... je rêve d'une manif où on chanterait le cœur des esclaves de Verdi, mais c'est un petit peu compliqué. Bon, même déjà, Bella Ciao, ça va pas être facile, mais au moins, le chant des partisans, c'est possible. Enfin, voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut faire, le SNES FSU peut faire, donc finalement moi, avec l'accord de ma chef Catherine Piécuche, on peut faire une demande pour un parcours jeudi soir à Lens. D'ailleurs, est-ce que c'est judicieux de quitter la gare ou est-ce qu'on reste devant la gare, là où il me semble que c'était l'endroit où on a vu plus de monde jeudi dernier. Et pour rebondir sur ce que disait Georges, c'est vrai que c'est à nous de donner un contenu politique à cette lutte, parce que une force sociale sans idée politique, elle est aveugle, et donc elle vient se fracasser contre le mur de l'indifférence du gouvernement, puisqu'ils ont beau avoir tout contre eux, l'opinion publique, elle leur est défavorable, le Conseil d'État, il tacle le texte et ils s'en foutent. Ils savent qu'ils ont une majorité confortable au Parlement et ils se dépêchent d'ailleurs de faire passer le truc pour qu'on ait vraiment pas le temps de se retourner. Alors, est-ce que ça vous paraît saugrenu de porter l'idée qu'on réclame un référendum ? Je vous dis ça comme ça parce que, hélas, il y en a une qui a déjà commencé à avancer ses billes. Mais peu importe, c'est pas parce que le Front National dit qu'il fait jour à midi qu'il faut s'interdire de dire qu'il fait jour à midi. Je crois qu'il y a un député communiste qui se prépare, non pas à demander une motion de censure, mais une motion... alors je ne sais plus le terme technique, mais qui réclame un recours parlementaire en prenant appui justement sur l'absence de constitutionnalité du texte, enfin, bref, sur le Conseil d'État. Est-ce que nous, on fait rentrer ça dans nos slogans et qu'on commence à défendre cette idée-là dans la rue ? Parce que vous imaginez, 61% donc des Français qui continuent à être contre cette réforme, et si les gens qui sont dans la rue ils réclament un référendum, on va avoir du mal à dire qu'on est hostile à la démocratie. Enfin, ils nous disent que la démocratie c'est eux, que l'état de droit c'est eux. Bon, nous on a une autre vision des choses, on considère quand même que sans souveraineté populaire, il n'y a pas d'état de droit. Et si on commence à porter très fort dans les manifs qu'on réclame un référendum, c'est quand même un peu emmerdant de dire non. Pour l'aéroport de Paris, on ne l'aura peut-être pas, hein, même avec passer le million de signatures. Mais si on n'a pas le référendum sur l'aéroport de Paris, quand même, ce référendum sur la réforme des retraites, c'est tellement structurel. Enfin, le texte du Conseil d'État dit que depuis 1945, on n'avait jamais fait des réformes qui touchaient à ce point le contrat social français. C'est eux qui disent ça. C'est quand même pas des... Bon, c'est leur terme. Oui, ils ont raison. On touche tellement en profondeur au contrat social que... Et alors, en plein, nous qui sommes un petit peu de culture marxiste, euphémisme d'ailleurs pour certains d'entre nous, le conflit entre le revenu du travail et du capital est en plein au cœur de la réforme. Hein, on a bien compris le problème. Donc, on est en pleine lutte des classes, là. En pleine lutte des classes. On peut appeler ça comme on veut, mais enfin, c'est quand même bel et bien comme ça que ça se passe. Bon, donc, si on arrive à enfoncer le coin politiquement... Et finalement, tant mieux si ça vient du mouvement social, qu'on apporte des idées politiques sur la table, et qu'il y a quelques députés quand même, c'est vrai qu'on les croise maintenant, il y a des sénateurs, il y a des députés qui sont à nos côtés dans les manifs, et moi je me souviens avoir déjà commencé à leur dire, maintenant le terrain, ça arrive sur votre terrain, on compte sur vous, mais si eux, ils mènent la bataille au Parlement, et que nous, dans la rue, au moment où ils sont à la tribune, on réclame à corps et à cri un référendum, putain, ils vont quand même avoir un petit peu de mal en face, je pense. Alors, je mets tout ça au débat, mais moi, la proposition que je fais, c'est jeudi soir, on refait quelque chose sur Lens, et on lui donne un contenu, peut-être avec une réclamation, enfin, une demande politique de référendum.
Il y a beaucoup de gens, y compris donc, bon, disons Clémentine Autain, Elsa Faucillon par exemple, donc des députés, qui, et d'autres, qui s'interrogent, hein, sur l'idée de le lancer. Hein. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de saugrenu et de spécifiquement, je ne sais pas, comment dire, bon... radical, quoi. Hein. La difficulté que j'ai un petit peu, moi, dans ce truc-là, c'est pas tellement... Enfin, d'abord, je suis pour. Deuxièmement, je suis d'autant plus pour que je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit aux Gilets jaunes, c'est bien leur idée d'avoir défendu ce RIC. Et je crois que c'est au fond une des grandes bonnes idées qu'ils ont eues, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas à avoir peur de se mettre dans leur enfin dans le sillage, si je puis dire. Le seul problème que je vois pour moi, c'est que comme je suis syndicaliste, j'aime pas trop quand même qu'on mélange le syndicat et la politique d'une certaine façon. Et puis l'associatif aussi, d'ailleurs. Enfin, je trouve que tout mélanger c'est une espèce de piège. Alors, ça n'empêche pas qu'après, on puisse vouloir et approuver ce genre d'idées. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut être neutre. Hein. C'est pas ma question, mais je pense que c'est quand même une idée politique et que ça doit venir des politiques. D'abord, peut-être qu'on peut leur suggérer, si on est d'accord, de toute façon, on est forcément à la fois syndicaliste et politique, mais j'ai envie de dire, si on s'affiche comme syndicaliste, comme moi je le fais, puisque je suis secrétaire de section, j'ai un peu de mal à revendiquer d'entrée de jeu ce genre d'action politique. Voilà, c'est le seul bémol que je mettrais, parce que sinon, à part ça, évidemment, je suis totalement favorable.
Donc, sur différents sujets, là, puisque plusieurs choses ont été évoquées, alors d'abord, l'idée de la retraite au flambeau, à nouveau sur Lens, jeudi, pourquoi pas? Bon, alors, l'idée me paraît bonne, surtout si elle est assortie de chœur ou de chorale, enfin, des choses comme ça, avec des instruments de musique, des choses comme ça, on peut aussi faire venir des jeunes aussi sur des choses comme ça. Peut-être que ce n'est pas forcément à ce moment-là en nocturne, parce que s'il n'y a pas de public... bon, la retraite au flambeau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la visibilité, c'est le spectacle aussi, quelque part, mais de notre côté, il n'y a pas de public, puisqu'on l'a vu l'autre fois, quand on a fini devant la mairie à Lens, on était entre nous. Hein. Donc voilà, c'est ça. Alors à ce moment-là, il faut rester à la gare et il faut commencer peut-être un petit peu plus tôt, et donc aussi mettre les jeunes dans le coup, qu'ils amènent des guitares, des saxophones, tout ce qu'on voudra. Hein. Et donc effectivement des chansons révolutionnaires et créatives, pourquoi pas aussi. Hein. On a vu ici, je crois que honnêtement, c'est une chose d'une extrême portée historique, ce qui s'est passé à l'Opéra de Paris, ce qui s'est passé avec les chœurs de Radio France et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, très souvent, au fond, dans nos mouvements, on est resté sur, je m'excuse d'utiliser du vieux vocabulaire marxiste, mais peut-être ça parlera à quelques-uns, sur une vision un peu économiste des choses. C'est-à-dire, bon, en gros, les luttes sociales, quoi. Bon, et là, les luttes sociales, quand elles touchent à des secteurs dont le métier, c'est la culture, et dont le métier, quelque part, c'est l'État-nation tel qu'il a été formé par les résultats du Conseil national de la Résistance. Radio France est typique de ça, de même que, par exemple, les chœurs de l'Opéra, etc. Eh bien, ça touche à ce que, bon, parlons avec des grands mots, ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle dans le pays, quoi. Et donc, ici, c'est ce qui fait lien entre le mouvement social et, au sens large du terme, la question du sens, la question globale. Quelle société, quelle humanité, quelle vie voulons-nous mener ? Donc ça me paraît très important. Alors, si on ne peut pas, pour des raisons pragmatiques, à exposer Grégory, disons, percuter, télescoper un peu tous les mouvements à la fois, il faut y penser plus peut-être pour la semaine qui vient, par la suite. Bon, là, il y a déjà quelque chose à Arras. Eh ben, alors, bon, peut-être bonne idée, effectivement, rabattons sur Arras. Mais dans la semaine qui suivrait, est-ce que ça ne serait pas possible de faire quelque chose qui soit donc à la fois retraite au flambeau et musique, si l'on peut dire, sur Lens ? Parce qu'il ne faut pas déposséder non plus le bassin minier en tant que tel. Hein, bon, c'est aussi quelque chose d'important d'un point de vue sociologique, hein, le bassin minier avec tout ce qu'il représente encore, et le danger Front National qui est encore plus fort sur le bassin minier qu'à Arras ou que dans des coins comme ça, en quelque sorte. Donc il me semble qu'on peut y réfléchir, peut-être en termes pragmatiques, sans, comment dire, faire une espèce d'opposition là entre, pardon, deux positions qui s'excluraient. Ça ne s'exclut pas, simplement, bon, il faut trouver le bon calendrier, en quelque sorte. Pardon, j'arrête pas de tripoter. Et alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément par rapport au référendum, c'est une bonne idée en soi, effectivement, et ça fait lien avec les Gilets jaunes. Gilets jaunes dont beaucoup d'entre eux, malheureusement, dans le bassin minier, risque, s'il n'y a pas d'alternative politique, et pour l'instant j'en vois pas vraiment se dessiner fortement, tout simplement d'être aspiré, faute de mieux, par le Front National. Les filles qui étaient là l'autre fois en tant que gilets jaunes au rassemblement devant la mairie m'ont clairement dit « Après, je vais voir le nouveau maire de Lens ». Et le nouveau maire de Lens, c'est celui qui a écrit sur le Sensas Friture à Lens « Votre nouveau maire ». Et donc c'est un gars qui est du Front National. La politique a horreur du vide, et voilà pourquoi aussi tout à l'heure je disais que si on ne veut pas s'occuper de politique, la politique s'occupera de nous, et que donc il faut y réfléchir. Mais en tout cas, sur ce plan-là, c'est une idée à eux, le RIC. Hein. Bon, et donc peut-être on peut rebondir dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qu'il faille porter comme position commune, mais peut-être le mettre en débat, si au moins il y a la presse ce jour-là. S'il n'y a pas la presse, de toute façon, ça risque d'être confiné dans la centaine de personnes qui seront présentes. Et par conséquent, ça n'ira pas fort loin. Donc dans ce cas, si on fait quelque chose, il faut convoquer la presse, me semble-t-il. Convoquer. Elle viendra ou elle ne viendra pas. Mais enfin, en tout cas, faire comme si c'était une presse démocratique et donc lui demander de venir. On ne risque rien à faire semblant, quelque part. Et puis, alors, la dernière chose, si vous voulez, bon, moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on réussisse, comme le dit aussi Grégory, comme l'a dit Jean-François, chacun le dit à sa façon, de faire durer le mouvement, que le simple fait que le mouvement dure est déjà une victoire, que tous les jours où on dit « c'est pas fini », comme l'an dernier, on disait « le mouvement des Gilets jaunes n'est toujours pas fini », l'acte 59, l'acte 62, l'acte 292 des Gilets jaunes. Bon, eh bien, ça, c'est une invention des Gilets jaunes. Nous, on doit aussi faire l'acte X, Y, Z, hein, et puis après, on recommence. Du mouvement social populaire pour les retraites, et derrière les retraites, on le voit bien, Jérôme a très bien exprimé ça, c'est l'ensemble des problèmes qui sortent. Hein. Vous voyez bien que la destruction des retraites, Macron se dit la même chose que nous, en sens inverse, il se dit « si ça passe sur les retraites, je fais passer tout le reste dans la foulée ». Et nous, on se dit « si on bloque sur les retraites, on va réavancer tout notre calendrier et tout notre agenda social sur tous les sujets, salaire, emploi, logement social, etc. etc. » Donc je crois que là, on peut effectivement avancer un peu. Une proposition qui germe, hein, bon, moi je l'ai faite au nom de mon mouvement politique au début, j'ai vu que c'était repris ou que ça avait été inventé par ailleurs, puisqu'il n'y a pas que des gens qui pensent d'un côté, on peut trouver des choses différentes sans se copier, c'est l'idée que bon, pour se redonner du courage, rebondir au niveau national, il faudrait, maintenant que les transports, hélas, remarchent au niveau national, qu'on ait une manifestation nationale à Paris. De préférence sur les Champs-Élysées, ou en tout cas finissant à la Concorde, il n'y a pas de raison qu'on se contente toujours de Bastille, République, Nation. Les Gilets jaunes ont bien montré qu'il faut manifester près des lieux de pouvoir et que c'est extrêmement important. Et là, effectivement, les trois composantes, c'est-à-dire les syndicalistes de lutte, les Gilets jaunes, ceux qui voudraient, et puis les militants progressistes de quelque parti ou organisation qu'ils soient, peut-être même avec l'idée, non pas simplement d'aller à Paris puis de rentrer le soir, mais en tout cas de ceux qui le peuvent, de camper là-bas, de rester là-bas. Je veux dire, on a été un petit peu admiratif dans les médias de tous les côtés de la place Tahrir et patati et patata. Hein. Bon, alors là, quand ça arrive en France, d'un seul coup, ça ne serait pas conforme à l'ordre républicain. Eh bien, et alors hein. La place de la Concorde, l'espace public est à tout le monde. Il faut marteler un petit peu cette idée. Ça serait aussi l'occasion de discuter de la perspective socio-économique, politique, culturelle et ainsi de suite. Je ne veux pas refaire Nuit debout parce que l'objectif, c'est d'alimenter le mouvement qui existe. C'est pas de se substituer au mouvement qui existe. C'est d'alimenter ce qu'on fait avec les blocages de raffineries, avec les grèves, avec les mouvements de 3C contre les E3C, etc., etc. Je crois qu'il faut quand même qu'on y réfléchisse parce qu'on a besoin, à mon avis, de renationaliser tout ça et de ne pas avoir un culte du local et du local. Si c'est uniquement local, au bout d'un moment, tout le monde va se demander si ça existe encore et on va se décourager. Et je me rappelle ici que lorsqu'il y avait eu la casse numéro 2 du Code du travail, là, hein, la loi El Khomri 2, c'est-à-dire la loi Macron 1, la loi Macron 2 au fond, parce que Macron avait déjà inspiré la première, Mélenchon... Je ne suis pas à la France insoumise, hein, je ne dis pas ça pour vendre qui que ce soit. Mais Mélenchon avait fait une proposition que, personnellement, j'avais approuvée, c'est-à-dire l'idée d'aller tous à Paris, politique, syndicaliste, associatif, etc., contre le coup d'État social, hein, comme il disait à l'époque. Puis ça avait tiré un petit peu la gueule côté du mouvement syndical, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais est-ce qu'on a les moyens, à l'heure actuelle, effectivement, de se faire la gueule les uns aux autres? Et je crois que, bon, si vous voulez, si on n'additionne pas un peu tout ça... D'autant que souvent, ben, ne nous cachons pas derrière le petit doigt, ici nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, cartés ou pas, engagés politiquement. Ce n'est pas une question de carte, c'est un engagement politique ou pas. On n'aura pas de véritable victoire. Donc, il me semble que c'est nécessaire. Et après, on n'est pas tous d'accord sur cette perspective politique, loin s'en faut, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte le plus, puisque on débat. Hein, on débat. Et puis après, ben, je dirais un petit peu pour, en faisant usage d'un darwinisme social bien compris, que le meilleur gagne, que les meilleures propositions triomphent, que celles qui sont le plus argumentées avancent, celles que le mouvement social ne veut pas, il les rejette. Et c'est pas grave, moi je suis prêt à m'incliner toujours devant la démocratie populaire. Hein, c'est-à-dire que c'est le peuple, finalement, assemblé dans la lutte, qui est le sujet politique.
Moi, j'ai pas d'avis sur un référendum d'initiative citoyenne, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce que je pense, et ce qu'on a du mal, je pense tous, c'est de mobiliser le monde du travail. Oui, il y a une lutte de classe qui se mène, et cette réponse, elle ne peut s'apporter qu'avec des travailleurs en chair et en os, qui se mettent en colère. Alors, le 5 décembre, ça a marché quand même plus ou moins fortement, y compris dans l'enseignement, vous étiez nombreux. À l'usine aussi, quand même, enfin, dans certaines boîtes. Aujourd'hui, on a du mal et on n'a pas passé un cap. Et le problème, je crois que c'est essayer encore, toujours, de convaincre d'autres travailleurs, d'autres camarades de travail qu'il faut y aller, qu'il faut être plus nombreux, qu'il faut être plus nombreux à la fois à cesser le travail, quand on peut, quand on est décidé, quand on n'a pas peur de son patron ou de son proviseur. Et puis aussi, eh ben, quand on ne peut pas, mais moi j'ai des camarades qui ne débrayent pas. Et ils montent dans le bus, hein. Ils viennent à la manif, etc., etc. Bon, moi, je pense que ça passe par là. Je n'ai pas d'avis à donner sur le RIC, moi. Ce n'est pas ma tasse de thé, et puis je n'ai pas réfléchi à ça, vraiment. Mais on a vu aussi avec l'aéroport de Paris, ça a ses limites. Bon, ils disent qu'il faut 5 millions de trucs pour que ça soit pris en compte. Bon, d'accord. Moi, je pense que c'est clairement une guerre qui est menée, et que c'est un rapport de force des travailleurs qu'il faut en face. Alors, c'est à la fois décousu, une fois on a une bagarre chez les hospitaliers, etc., les enseignants, ils sont un peu moins nombreux, un coup c'est etc., mais n'empêche que tout le monde est mécontent, tout le monde est en colère, et on représente tous une force de travail. Cette force de travail, quand elle arrive à s'arrêter collectivement, tous en même temps, là on peut emporter le morceau. Moi je pense que c'est comme ça que ça peut se passer.
C'est ça. Alors après, je ne donnerai pas mon avis sur rien du tout. Je suis là tout seul à me représenter un peu que moi-même. Je ne suis pas venu... Mais voilà, mais moi je pense qu'il faut continuer à militer pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans les rassemblements, les manifs et les arrêts de travail. Parce que si on n'essaye pas de passer un peu de temps à convaincre nos... Alors bien sûr, on peut penser que bon, on a vu ceux qui bougent et ceux qui ne bougent plus, puis on pense que c'est figé. Il n'y a rien de figé dans la vie, il n'y a rien. Moi j'ai vu des travailleurs qui ne bougeaient jamais, et puis d'un seul coup, ils sont là régulièrement présents. Et je dis, mais jamais j'aurais pensé qu'ils seraient venus. Bon. Et puis d'autres qui l'ouvrent tout le temps à longueur d'année, ben, ils sont modérés comme pas ça. Il n'y a rien de figé et nous, on peut encore convaincre. Et je suis convaincu qu'effectivement, il faut être présent là où on peut et à chaque fois le plus nombreux possible. Voilà.
Sur la semaine qui arrive, ça me semble court d'organiser quelque chose sur Lens. Donc je pense que l'idée d'être visible à travers des champs, etc., c'est une bonne idée. Mais du coup, ça demande un peu de temps pour l'organiser, effectivement, pour la semaine prochaine. Nous, on a redit, là, on avait une réunion de secteur avec les territoriaux du secteur A, mardi dernier. Moi j'ai redit le fait d'interpeller par une lettre ouverte nos employeurs publics sur à la fois la question du projet de réforme des retraites, mais aussi la loi de transformation de la fonction publique qu'on nous a passée au mois d'août dernier. Et donc ils ont repris note de ça et on est dans l'attente pour que nous, au niveau de nos syndicats respectifs, on puisse monter un peu... au questionnement de nos autorités territoriales pour, ce temps-là, justement, avant élection, puisque pour beaucoup, ils vont se remettre en campagne, qu'ils puissent aussi clairement énoncer les choses à la population.